Bon, donc on va commencer ce dernier cours de ce cycle 2011-2012. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sriram Shastri de UCSC, qui nous fera qui donnera deux séminaires qui sont assez directement reliés, comme vous allez le voir, à l'ensemble de la deuxième partie de ce cours, puisqu'il y a un premier séminaire qui portera plutôt sur l'aspect thermoélectricité, et un deuxième, ou plutôt pouvoir thermoélectrique, et un deuxième séminaire qui portera sur ce qu'il arrive au liquide de Fermi dans des régimes de très forte corrélation. Bon, alors je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé au cours des deux premiers cours de ce cycle de trois sur le transport. Donc, dans le premier cours, j'avais présenté pas mal de phénoménologie sur le transport dans différents oxydes fortement corrélés, les ruthanates en particulier, mais aussi bien d'autres, un peu les cuprates. Et j'avais fait ressortir un certain nombre de questions sur le transport qui était en particulier la question de savoir où s'arrêtait le régime du liquide de Fermi, où commençait, à quel moment on atteignait la limite de Motioff et Regel, et qu'est-ce qui se passait entre ces deux limites. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait, entre ces deux températures caractéristiques, celle où le liquide de Fermi est détruit et celle où on atteint la limite de Motioff et Regel, est-ce qu'on pouvait identifier encore des quasi-particules et quelles étaient leurs propriétés? Et on avait répondu à cette question lors du cours précédent, du cours du 6 juin, où je vous avais montré qu'effectivement, dans ce régime, il y a clairement encore un pic de quasi-particules dans la fonction spectrale, que ces quasi-particules n'obéissent plus à la loi de Landau. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est continuer dans cette veine en vous parlant du coefficient Seebeck, toujours en vous présentant ces mêmes calculs très simples dans le contexte d'un isolement dopé traité en DMFT in situ, hein, donc le même type de calcul que ceux que j'avais présentés la dernière fois. Et je voudrais juste vous souligner le fait que le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un cours sur la thermoélectricité au sens de l'utilisation du coefficient Seebeck et des autres coefficients thermoélectriques pour des applications énergétiques ou comment optimiser des matériaux pour avoir le meilleur Seebeck possible. C'est vraiment plutôt un cours dans lequel je considère le coefficient Seebeck comme une sonde d'un certain nombre de propriétés, en particulier les propriétés des quasi-particules et des différents autres régimes de transport. Alors en fait, ça procure une espèce de transition adiabatique avec le cycle de cours de l'année prochaine, parce que j'ai décidé, sauf si je change d'avis, mais je ne crois pas que je changerai d'avis, j'ai décidé de faire le cycle de cours de l'année prochaine, précisément sur les thermoélectriques, donc cette fois vraiment sur l'aspect à la fois fondamentaux de la thermoélectricité, mais aussi matériaux, à la fois recherche de nouveaux matériaux et nanostructuration. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ce domaine au cours des 10-15 dernières années, et je trouve que c'est un sujet. Il y a des choses qui se passent actuellement dans ce domaine au niveau de la physique mésoscopique, par exemple, et je pense que ce n'est pas un mauvais sujet pour un cours qui sera à la fois avec des aspects fondamentaux, à la fois avec des aspects matériaux et des aspects plus appliqués. Donc ça devrait avoir lieu au printemps 2013. Bien, alors je vous rappelle donc que dans les deux précédents cours, on avait identifié trois régimes de température. Hein, un régime de basse température où on avait un liquide de Fermi, et j'avais insisté sur le fait que les échelles d'énergie caractéristiques, et donc cette échelle de température caractéristique, T liquide de Fermi, étaient extrêmement, extrêmement faibles, hein, donc par rapport aux échelles d'énergie électronique, facilement, simplement 10, 20, 30 Kelvin dans un oxyde très corrélé. J'avais donc décrit les propriétés de transport dans ce régime, et puis ensuite on s'était penché beaucoup sur le régime intermédiaire où la température est plus grande que cette température caractéristique, mais reste bien plus faible que la température ou la limite de Motyoff-Regel est atteinte. Et donc, comme je viens de le dire, on avait identifié l'existence de quasi-particules plus larges que la loi de Landau, mais encore bien définies. Donc, un régime où une description à la Drude du transport reste possible, bien qu'on n'ait pas une loi de Landau pour les quasi-particules. Et puis, en dernier lieu, on avait identifié le régime de haute température, où la résistivité, vous vous souvenez sûrement, passe à travers la limite de Motyoff-Regel, pratiquement sans rien faire de particulier. On voit plus de choses dans la conductivité optique, mais où réellement ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus du tout de quasi-particules, et en fait, c'est presque un abus de langage de parler de transport métallique dans ce régime, puisqu'on est en train simplement de doper avec des trous la bande de Hubbard inférieure. Alors, juste pour vous resituer les choses, voilà quatre exemples caractéristiques de la fonction spectrale résolue en impulsion, paramétrée ici par l'énergie dans la bande et en énergie, qui sont caractéristiques de ces différents régimes. Ce que vous voyez ici, c'est le régime liquide de Fermi, donc à très basse température, avec un pic de quasi-particules bien défini et très étroit au niveau de Fermi. Et puis vous voyez que quand on commence à chauffer au-dessus de T liquide de Fermi, les quasi-particules de Landau s'élargissent considérablement. En fait, elles sont détruites même plus facilement sur la surface de Fermi. Et dans cet isolant de mode dopé en trous, ce qui subsiste, c'est des quasi-particules plus larges, mais qui sont surtout du côté excitation électronique. Donc, ils se développent, c'est-à-dire du côté oméga positif. Donc, ils se développent dans ce régime une très forte asymétrie particules-trous qui va avoir un rôle très important dans le cours d'aujourd'hui. Et puis, quand on augmente la température de plus en plus, finalement, ces quasi-particules, que j'appellerais volontiers quasi-particules de Drude, finissent par mourir, et on trouve simplement la bande de Hubbard inférieure. Et l'image qu'on peut donner de tous les coefficients de transport dans ce régime, comme on va le voir encore aujourd'hui pour le Seebeck, l'image qu'on peut donner, c'est simplement d'introduire des trous dans la bande de Hubbard inférieure. Mais vous voyez que dans le cas à une orbitale, à une bande, ceci ne se produit que dans des régimes de température extrêmement élevés. Bien. Je vous rappelle également que quand on parle de transport, il est essentiel de savoir quelle est la fenêtre d'énergie qui contribue, donc quelles sont les excitations qui contribuent au coefficient de transport. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui dépend beaucoup de la température. La règle, si vous voulez, simple, c'est qu'en gros, c'est des fréquences d'excitation h bar oméga qui sont de l'ordre de quelques fois kT, disons typiquement 5 fois kT, qui contribuent au transport. Donc vous voyez qu'à basse température, c'est cette toute petite fenêtre ici, que vous pouvez probablement même pas voir sur ce transparent, qui est là, d'accord. À température un peu plus élevée, ça va être ça. Donc ici, effectivement, ces quasi-particules au-dessus du niveau de Fermi contribuent. Et puis, dans le régime incohérent, on finit par avoir une énorme plage d'énergie qui contribue au transport. Ceci illustrait la disparition graduelle de ces quasi-particules dans une quantité plus simple, qui est la densité d'état total, où vous voyez ce pic de quasi-particules disparaître graduellement, mais subsister jusqu'à des températures très élevées, donc loin au-delà du régime de Landau. Bon. Je vous avais montré de la phénoménologie, cette résistivité de Motyoff-Regel, cette résistivité qui traversait la soi-disant limite de Motyoff-Regel sans accident particulier. Donc ça, c'est un petit résumé des épisodes précédents, et pour les mettre en contexte. Et voilà ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, je vais introduire quelques éléments de base sur les effets thermoélectriques. Encore une fois, l'année prochaine, on en verra plus. Et les coefficients de réponse associés à ces effets thermoélectriques. Ensuite, je vais brièvement, sans entrer trop dans les détails techniques, vous parler de comment, au moins en principe, calculer le coefficient Seebeck à partir de la formule de Kubo. On l'avait vu pour la résistivité dans les fois précédentes, on va le voir aujourd'hui pour le Seebeck. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette approche de Kubo, toujours dans l'approximation il n'y a pas de correction de vertex, qui est exact en DMFT ainsi, pour explorer les différents régimes, essayer de comprendre les trois régimes, en gros, de température pour ce coefficient Seebeck. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, alors donc je commence avec des choses de base sur les coefficients de transport. Donc maintenant, on n'a plus seulement un champ électrique, on a également un gradient thermique entre les deux extrémités de l'échantillon. Donc on a, si vous voulez, un gradient de potentiel chimique ou de potentiel électrochimique, mu, ça pourrait être mu moins EV, hein, et puis un gradient de température. Et ce que j'ai écrit ici, c'est les équations de réponse linéaire qui relient le courant de particules. Donc je vais distinguer dans la suite Jn, qui est le courant de particules, et le courant électrique, qui est moins EJn, hein, où est la charge d'électron en valeur absolue, et puis un courant d'entropie. Alors donc on a choisi ici ces deux variables, densité et entropie. Quand vous ouvrez des livres sur la thermoélectricité, j'y reviendrai l'an prochain, c'est un peu la foire d'empoigne, il y a des gens qui manipulent la densité et l'entropie, la densité et la chaleur, enfin bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, la densité et l'énergie. Si on veut établir les choses de manière un peu propre, je crois que le choix densité-entropie est le bon choix, parce que si vous considérez le potentiel, le grand potentiel dans l'ensemble grand canonique, donc qui est une fonction naturellement de la température et du potentiel chimique, vous voyez que l'entropie et le nombre de particules sont les variables conjuguées, naturelles, associées à T et mu. L'entropie, c'est la dérivée par rapport à T, et le nombre de particules, c'est la dérivée par rapport à mu. Hein? Donc il est très souhaitable d'écrire les équations de transport dans ces variables, donc on prend les gradients de ces quantités et on regarde les courants associés aux quantités conjuguées. Alors ça, ça a aussi l'avantage que si vous définissez maintenant ces coefficients de réponse linéaire, eh bien vous êtes sûr que, je ne l'établis pas, mais c'est des considérations assez générales, vous êtes sûr que cette matrice de coefficients obéit à la propriété de symétrie de Hunsager, qui est que les coefficients non diagonaux sont symétriques, L1,2 est égal à L2,1. Il n'y a pas de facteur T ou autre chose dans cette relation, c'est juste L1,2 égale L2,1. Voilà. Donc on a au total 4 coefficients, mais 3 seulement, qui sont indépendants. Et évidemment, ce qu'on va faire maintenant, c'est de comprendre quelles fonctions de réponse observables, quelles quantités observables sont reliées à ces différents coefficients de réponse. Clairement, les effets thermoélectriques, c'est-à-dire les effets qui couplent le transport de charge et le transport thermique, vont être liés aux coefficients off-diagonaux, non-diagonaux de cette matrice. Alors, si vous voulez relier ça au courant électrique, cette fois, et au courant de chaleur, le courant électrique, ben, c'est juste moins E, Jn. Et le courant de chaleur, comme la variation de chaleur, c'est TdS, ou petit s, c'est l'entropie. Ah oui, il y a un problème dans ce domaine, c'est qu'on a besoin à la fois de l'entropie et du Seebeck. Alors, il y a des gens qui appellent Seebeck alpha, mais moi, j'appelle le Seebeck S, comme Seebeck. Donc, du coup, j'ai besoin de distinguer avec l'entropie. Donc, j'appelle petit s l'entropie et grand S le Seebeck. Voilà. Bon, donc, comme dq, c'est TdS, le courant de chaleur, c'est Tjs. Et vous pouvez relier la chute de potentiel chimique au bord de l'échantillon, au champ électrique, hein, à la chute de potentiel. Et vous pouvez reconvertir tout ce que j'ai raconté ici en termes d'une expression pour le courant électrique et le courant de chaleur. Alors ça introduit des charges. Q, c'est moins E, où E est la valeur absolue de la charge. Et E, c'est le champ électrique. Donc voilà comment on fait. Si vous ouvrez Ashcroft et Mermin, vous trouverez que c'est directement à partir de ces expressions-là que les coefficients L sont définis dans Ashcroft et Mermin, de sorte que les L de Ashcroft et Mermin sont reliés à mes L curly là, de cette manière. Alors, ceci me permet tout de suite de discuter les différents effets. Si vous vous intéressez juste à la conductivité électrique, il n'y a pas de gradient thermique, donc la conductivité, c'est Q carré L1,1, comme on l'a vu dans les cours précédents. Si vous vous intéressez seulement à la conductivité thermique, ben vous êtes dans une situation où il n'y a pas de transport de matière, il y a juste du transport de chaleur. Hein, et donc, vous mettez ici Jn égale 0. Alors, vous voyez que si vous mettez Jn ou Je égale à 0, ceci vous nécessite un certain rapport entre le champ électrique et le gradient thermique au bord de l'échantillon. Alors, je vais y revenir dans le transparent suivant, c'est précisément ça, l'effet Seebeck. D'accord ? Vous utilisez cette relation entre E et gradient T. Vous n'avez besoin de le faire, bien sûr, que si L1,2 est non nul. Vous substituez ici. Et ce que vous obtenez tout de suite, c'est que le courant de chaleur est relié au gradient thermique, ou à moins le gradient thermique, par l'intermédiaire d'un coefficient de réponse kappa, qui est donc la bonne définition de la conductivité thermique en présence de coefficients off-diagonaux, non-diagonaux, et qui est donné donc ici. En gros, c'est L de 2, et en effet, en général, petit, qui corrige ce L de 2, qui vient des coefficients thermoélectriques. Donc voilà pour la conductivité thermique. Et maintenant, j'en viens aux effets thermoélectriques proprement dits. Alors, dans tout le cours d'aujourd'hui, il n'y a pas de champ magnétique, donc je vais juste parler de deux effets thermoélectriques les plus simples, disons, et les plus connus, l'effet Seebeck. Donc, c'est quelque chose qui a été découvert très tôt, au début du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que l'effet Seebeck ? On prend un échantillon, on met un gradient thermique, source chaude, source froide, et on s'aperçoit qu'il s'établit une différence de potentiel au bord de l'échantillon. Donc, il y a une différence de potentiel. Il n'y a pas de transport de matière. Vous pouvez même penser faire ça en l'absence d'un circuit fermé. Et donc, si vous écrivez, comme je le disais tout à l'heure, JE égale 0, pas de transport de matière, vous voyez que ceci instaure un rapport particulier entre le champ électrique et le gradient thermique, qui, en quelque sorte, c'est ce que vous devez assurer pour que la chaleur coule sans qu'il y ait de transport de matière. Vous compensez le gradient thermique par le champ électrique. Et le rapport en question, S, c'est le coefficient Seebeck, qui, vous voyez dans mes notations, est le rapport de L1,2 à L1,1 fois Q. Alors, ce que vous voyez tout de suite apparaître ici, qui est important pour la suite, c'est que le coefficient Seebeck est un rapport de deux coefficients de transport. Et donc, ce n'est pas vraiment un coefficient de transport, le coefficient Seebeck. C'est en fait, un peu comme le nombre de Hall, quelque chose qui a à voir avec de la thermodynamique du système. En tout cas, le taux de diffusion a tendance à disparaître, au moins dans les cas simples, du coefficient Seebeck. Alors, il y a un autre effet qui a été découvert beaucoup plus tard, qui est l'effet Peltier, qui est que si vous faites passer un courant électrique, il y a aussi un courant de chaleur, et ce même en l'absence de gradient thermique au bord de l'échantillon. Donc maintenant, si vous faites gradient T égale 0, vous voyez qu'on peut relier le courant de chaleur au courant électrique avec un coefficient ici qui s'appelle traditionnellement pi, le coefficient Peltier, et qui est donné cette fois par cette expression, T fois L2,1 sur QL1,1. Donc c'est presque la même expression que le Seebeck, à part que ce n'est pas la même. Ici, il n'y a pas L1,2, mais il y a L2,1, et puis il y a un facteur T entre les deux. Mais comme nous avons les relations de Hunsager, comme on sait que L1,2 égale L2,1, eh bien, ça signifie qu'il y a une relation entre le coefficient Peltier et le coefficient Seebeck, comme vous voyez ici, qui est pi égale TS, relation qui n'a pas attendu Hunsager pour être découverte, mais qui a été découverte par Lord Kelvin à la fin du 19e, pi égale TS, par des considérations d'ordre thermodynamique. Alors, vous pouvez utiliser tout ça et réexprimer mon expression du courant d'entropie en termes de deux quantités, de deux coefficients de réponse, le Seebeck et la conductivité thermique. Et quand vous faites ça, vous obtenez que le courant d'entropie, c'est le Seebeck fois le courant électrique moins une contribution qui vient du transport de chaleur, du transport thermique. Donc vous voyez que d'une certaine manière, le coefficient Seebeck mesure la manière dont les porteurs de charge transportent de l'entropie. C'est un rapport, en fait, entre le courant d'entropie et le courant électrique. Et comme c'est de nouveau un rapport de courant, eh bien, le taux de diffusion a tendance à ne pas être présent là-dedans. Ça vous dit comment un porteur de charge transporte de l'entropie, le coefficient Seebeck. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On en verra certainement plus, en particulier toutes les considérations d'ordre énergétique qui sont liées à ça, puisqu'un contact Seebeck, c'est aussi une machine thermique. Donc on peut voir faire de la thermodynamique avec ça. On verra ça l'année prochaine. Voilà les choses de base que je voulais vous dire qui définissent les choses dont j'ai besoin dans le cours d'aujourd'hui, disons. Alors maintenant, on va être plus microscopique et se poser la question de savoir comment on calcule le coefficient Seebeck microscopiquement dans une approche de type Kubo. Donc j'avais déjà introduit la formule de Kubo pour le calcul de la conductivité il y a deux cours, on avait vu que la conductivité, c'était en gros 1 sur oméga fois un corrélateur courant-courant. Eh bien, aujourd'hui, on va faire quelque chose de similaire, mais je vais aller un peu plus vite, je ne vais pas vous donner les détails techniques du tout, pour les coefficients thermoélectriques. Donc, le courant d'entropie, bon, ce n'est pas très facile à exprimer, donc c'est plus simple de le relier à un courant d'énergie, hein, en utilisant toujours de la thermodynamique. TdS, c'est dE moins mu dN, où E, c'est l'énergie interne. Ça permet de relier le courant d'entropie au courant d'énergie et au courant de particules. Le courant de particules, on le connaît bien, on l'a déjà vu en détail au cours, à l'avant-dernier cours. Hein, c'est cette expression-là avec Vk gradient K de epsilon K essentiellement, où epsilon K sont les énergies de bloc. Et puis, le courant d'énergie, ben, il fait intervenir une expression similaire, mais ici, il y a une dérivée temporelle de l'opérateur de création électronique, et il faut travailler un petit peu. En fait, quand on utilise les équations du mouvement, on peut exprimer cette quantité, et finalement, on se ramène à calculer, évidemment, trois corrélateurs, Jj qui va nous donner L1, JJE qui va nous donner L1,2 et JEJE qui va nous donner L2,2, en gros. Bon, alors je vous passe les détails. J'aurais pu passer tout un cours à aller en détail à travers le calcul de Kubo pour ces coefficients-là, ça vaudrait sûrement la peine. Mais je n'ai pas vraiment le temps de faire ça aujourd'hui, donc je vous donne simplement le résultat final quand on néglige les corrections de vertex. Dans un système, donc, en interaction, qui a une fonction spectrale A de epsilon k et de oméga, et une self-énergie qui ne dépend que de la fréquence. Alors, l'expression finale pour la conductivité des C, on l'a vu pour la conductivité optique dans un cours précédent, et le coefficient Seebeck, sont données par ces expressions. Alors, vous voyez que, comme on l'a vu précédemment, la conductivité fait intervenir ce coefficient de transport, qui est une double intégrale sur l'énergie du carré de la fonction spectrale fois la fonction de transport que j'avais introduit à l'avant-dernier cours. La fonction de transport, c'est une sorte de densité d'état qui pondère le carré des éléments de matrice du courant par la densité d'état, le nombre d'états accessibles à cette énergie. Hein, c'était ce phi de epsilon que j'avais introduit à ce moment-là. Et pour la conductivité électrique, on a juste besoin de prendre l'intégrale sur la fréquence de cette quantité avec un facteur filtrant qui est 1 sur cosinus hyperbolique carré bêta oméga sur 2, donc qui est le filtre qui filtre les énergies sur des énergies d'ordre kT, c'est le dessin de tout à l'heure. Et dans le cas du coefficient Seebeck, ce qui apparaît, c'est un rapport de deux coefficients de transport, donc on retrouve bien cette notion sur laquelle j'ai déjà insisté, que le Seebeck, c'est un rapport de coefficients de transport, comme RH. Et vous voyez qu'ici, ça c'est le premier point, et le deuxième point important, c'est que c'est un rapport dont le numérateur fait intervenir un moment impair de cette quantité qui dépend de l'énergie, à la différence de la conductivité ou la conductivité thermique qui font intervenir des moments pairs. Donc ça veut dire que, très clairement, le coefficient Seebeck va dépendre de manière très sensible de l'asymétrie particule-trou dans le système. Si vous avez des quantités qui sont complètement symétriques entre excitation de type particule et excitation de type trou, donc si cette quantité-là, elle a une fonction de transport, phi de epsilon, qui est symétrique en epsilon donne moins epsilon, que cette fonction spectrale est symétrique de la même manière, eh bien, vous voyez que comme ça, c'est symétrique en énergie, A1 est simplement nul, et il n'y a pas de Seebeck. Donc, on verra ça plus en détail l'an prochain. Tous les gens qui cherchent à faire des matériaux thermoélectriques en faisant de l'ingénierie de structures de bandes savent qu'il faut avoir des structures de bandes qui soient le plus asymétriques possible entre excitation de type particule et excitation de type trou, et on le comprend très bien, ne serait-ce qu'à partir de cette formule. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas seulement la symétrie particule-trou qui vient de la fermiologie du problème, disons la structure de bande du problème, mais il peut y avoir aussi, et on va le voir bientôt dans 2-3 transparents, il peut y avoir aussi une asymétrie particule-trou qui vient du temps de vie. on peut imaginer que le temps de vie soit très différent pour les trous et les particules. On a vu des exemples de ce type, d'ailleurs, dans les séminaires sur les pnictures. Et ça, c'est quelque chose qui va contribuer aux coefficients Seebeck. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout, je crois, ce que je voulais vous dire sur le formalisme. Hein. Probablement, Sriram nous dira un peu plus dans son séminaire sur le calcul des coefficients Seebeck d'un point de vue fondamental. Pour ce qui me concerne, pour la suite du cours, je vais me servir exclusivement de la formule relativement simple qui est au tableau ici. Bon, alors maintenant, comme la dernière fois, je vais vous montrer juste un résultat. Hein, comme j'avais fait la dernière fois, on avait procédé presque empiriquement, on avait regardé. Donc maintenant, je vais illustrer ça hein, avec les calculs sur l'isolant de mode dopé traité en DMFT, un site, pour avoir quelque chose où on essaie de répondre aux questions qu'on a posées, un cas concret où on peut faire les calculs. Et donc, comme la dernière fois, je vais juste commencer par vous montrer les résultats, et puis on va essayer de les comprendre dans les différents régimes. Donc voilà le coefficient Seebeck. Alors un coefficient Seebeck, ça s'exprime en unité de Kb sur E, donc c'est tout en unité de Kb sur E, en fonction de la température. Je vous rappelle que la température est toujours exprimée ici en unité de la demi-largeur de bande. Hein, donc 1, c'est énorme dans ce contexte, c'est hein, 12 000 Kelvin. Donc voilà le coefficient Seebeck pour différents dopages, 10%, 15%, etc. Et vous voyez qu'il se passe pas mal de choses dans ce coefficient Seebeck. Donc ici, déjà à basse température, on semble avoir un régime qui est clairement plus ou moins linéaire en T. On fera un zoom tout à l'heure là-dessus, on verra qu'il est effectivement linéaire en T, avec une pente qu'on ne peut pas bien résoudre sur ce transparent, mais qui dépend en fait sensitivement du dopage. Et le coefficient Seebeck commence négatif. Hein? Alors ça, c'est normal. En effet, si vous regardez cette formule ici, je l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais quand les porteurs de charge sont des électrons, quand on a un transport de type électron, on s'attend à avoir un coefficient Seebeck négatif. Donc le coefficient Seebeck est négatif, et puis vous voyez qu'il a un minimum, et puis qu'il change d'avis, il remonte vers le haut, il devient positif, il y a un passage à zéro quelque part ici. Le coefficient Seebeck augmente, il atteint une sorte de premier maximum, à des températures qui sont déjà considérables. Ici, vous voyez dans ce modèle, c'est la moitié de la demi-largeur de bande. Donc, c'est le genre de température où on atteignait la limite de Motioff-Eregel. Hein. Donc, des températures très hautes où il n'y a plus de quasi-particules. Et puis là, le coefficient Seebeck change d'avis de nouveau, il descend. Et puis, en fait, si vous le regardez ici, il y a un petit inset que vous ne pouvez sans doute pas voir, qui prolonge cet axe jusqu'à 2. Et en fait, ce que vous voyez sur cette courbe, qu'on verra en plus grand tout à l'heure, c'est qu'il change de signe, il redevient négatif à haute température. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est négatif à très très haute température, positif avec un maximum à température intermédiaire, qui repasse par zéro et qui est linéaire en basse température, qui est linéaire en température à basse température. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions dans ce coefficient Seebeck, et je voudrais essayer de vous montrer qu'on peut comprendre à peu près tous ces régimes. Donc, dans la suite, on va se focaliser sur la compréhension de, je dirais, presque quatre régimes. Un régime de très basse température ici, où le coefficient Seebeck est linéaire en T. Un régime intermédiaire, où il passe par ce minimum et remonte. C'est le régime de Drude, qui est un peu la chose nouvelle, disons, de ce cours. Le régime de haute température, où il est positif. Et le régime, je dirais, de très haute température, où il est de nouveau négatif. Et donc, vous allez voir qu'au moins dans le régime basse température, dans ce régime-là et celui-ci, on peut comprendre les choses essentiellement analytiquement. Voilà, voilà un zoom sur la partie basse température, disons, qui vous montre ce changement, ce minimum, qui ne dépend pas beaucoup du dopage, la valeur du minimum. En revanche, la pente, vous voyez ici, la pente du régime linéaire dépend du dopage, elle est beaucoup plus grande quand le dopage est plus faible. Cette courbe, c'est 10%. Cette courbe ici, c'est 15%. Vous voyez que la pente est plus grande à faible dopage. Voilà. Alors, c'est bien. Il me reste une demi-heure à peu près. Je vais pouvoir vous décrire les différents régimes, en commençant par le régime liquide de Fermi. Alors, je vous rappelle que ce régime liquide de Fermi est confiné à très basse fréquence. Hein, c'est quelque chose qui concerne des fréquences et des températures très basses. On avait pris du temps dans les cours précédents pour identifier précisément l'échelle caractéristique de température en dessous de laquelle on avait un liquide de Fermi, et pour ces valeurs de la constante de couplage, la valeur qu'on avait obtenue, c'était 0,05 fois delta fois la demi-largeur de bande. Hein, donc une échelle qui est considérablement plus basse que l'échelle naïve de Brinkman-Rice, delta D, par un facteur d'ordre 10-2. De même en énergie, ici, il y a bien un oméga 2. Alors, Sriram n'aime pas que je présente les self-énergies négatives. Il faudra les regarder positives. Mais bon, il y a bien une parabole, il y a bien un moins oméga 2, si vous voulez. Mais vous voyez que si c'est un bon fit, c'est effectivement un bon fit, mais seulement ici, à très, très, très basse énergie. Et vous voyez immédiatement quelque chose qui va être important pour le ZBEC ici. C'est que clairement, le comportement de la self-énergie quand on sort de ce régime liquide de Fermi est extrêmement différent entre les excitations de type trou et les excitations de type particule. Clairement, vous voyez qu'on sort beaucoup plus vite du oméga 2 pour les excitations de type particule et on y reste beaucoup plus longtemps en énergie pour les excitations de type trou. Et par ailleurs, le temps de vie des excitations de type particule a une sorte de saturation dans un régime intermédiaire de fréquence et de température, hein, et donc il va clairement dominer le ZBEC dans un certain régime, puisque c'est, et la conductivité encore plus, puisque c'est lui qui correspond aux excitations de plus grande durée de vie. Bon, alors, la grande différence, ça c'est un rappel de la dernière fois, où on avait fait un développement basse température de la résistivité. On avait vu que pour la résistivité, il suffisait d'utiliser la forme d'échelle de la self-énergie dans le régime de liquide de Fermi, de mettre ça dans la formule de Kubo de tout à l'heure, et on avait obtenu cette formule, hein, qui est la résistivité exprimée en unité de Rho-mott dans le régime liquide de Fermi, et cette formule faisait apparaître que quand on atteignait la température liquide de Fermi, la résistivité était beaucoup plus petite que Rho-mott. Mais le point important, c'est que pour obtenir ce terme dominant en T2, il suffit de connaître la partie liquide de Fermi de la self-énergie. Alors le point, c'est que pour le ZBEC, cette remarque n'est pas correcte. Et ça, c'est quelque chose qui a été, je pense, découvert en fait assez récemment, il y a 2-3 ans, dans cet article. Il est publié dans un proceeding, c'est pour ça que j'ai mis là. La référence de Kondmat ici. Vous trouverez des articles précédents, d'ailleurs des mêmes auteurs, où le développement en tenant uniquement compte de cette partie-là avait été fait. Et puis, ils se sont aperçus qu'en fait, les termes au-delà du liquide de Fermi étaient importants pour ce développement à basse température. Et ce n'est pas seulement pour des corrections, c'est pour le terme dominant, la pente du terme T-linéaire du ZBEC à très basse température. Alors, la partie sigma 2 ici, c'est celle-ci, hein, c'est la partie liquide de Fermi, et puis il y a une correction. On ne sait pas très bien comment est cette correction. Ça sera l'objet d'une partie du second séminaire de Sriram, de nous parler de ce type de correction. Donc, vous voyez comment ça s'articule avec le cours d'aujourd'hui. Mais imaginons qu'il y a un oméga cube dans cette correction, et peut-être aussi un terme en oméga T2. Alors, je reviens à ma self-énergie. Vous voyez qu'ici, clairement, il y a quelque chose qui nous fait dévier de la parabole. Donc, il y a très certainement un terme de type oméga cube dans ce fit, dans ce comportement. Et ce terme près de la transition de Mott, hein, c'est ce qu'on est en train de regarder ici, tout ça est une fonction d'échelle de oméga sur Z, hein, où Z est le poids des quasi-particules. C'est la seule échelle d'énergie du problème, Z égale 2 dopage, en gros. Et donc, ici, on a divisé par z cube, juste pour avoir des coefficients A1 et A2 qui soient d'ordre 1. Mais ce n'est pas essentiel, évidemment. On aurait pu les intégrer dans A1 et A2. Alors, on substitue ce développement basse température dans la formule de tout à l'heure, pour A0 et pour A1. On travaille un petit peu, et on obtient cette magnifique formule ici, où j'ai encadré trois choses pour vous faire remarquer leur importance. Alors, la première chose que j'ai encadrée, donc vous voyez, c'est ce terme fois une parenthèse qui contient ces deux termes. Alors, la première chose que j'ai encadrée, c'est ce terme-là. Et ce terme-là, il nous apprend simplement que le Seebeck est linéaire en température. Bon, très bien, donc ça c'est ce qu'on voit dans beaucoup de métaux à basse température, et en particulier ce qu'on voyait dans ces calculs. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'au dénominateur, ce qui contrôle la pente de ce terme T linéaire, eh bien, alors ici, je pense qu'il y a une erreur dimensionnelle probablement. Non, c'est bon, ça c'est 1 sur une énergie, ce qui compense ça, donc c'est bon. Et ici, il y a 1 sur Z, hein, et vous voyez que la pente du Seebeck, elle est renormalisée par le poids des quasi-particules. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui vous fait sentir que c'est très différent de la conductivité, puisque dans la conductivité, en général, le poids des quasi-particules disparaît. Donc, le poids du Seebeck dépend inversement proportionnellement au dopage, du dopage, et c'est bien ce qu'on voit ici. Hein. On voit bien que la pente dépend du dopage, elle est d'autant plus grande que le dopage est petit. Donc, c'est bien expliqué par ce facteur Z, en première approximation. Mais ce que vous voyez dans ces termes ici, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un premier terme ici qui vient de la dérivée de la fonction de transport au niveau de Fermi, mu0 c'est epsilon f, niveau de Fermi. Donc vous voyez ici, c'est même la dérivée logarithmique de la fonction de transport qui apparaît. Autrement dit, ce terme serait nul dans une structure de bande qui aurait une densité ou une fonction de transport plate au niveau de Fermi. On retrouve cette notion de la symétrie particule dont je parlais tout à l'heure. Donc, plus ce terme est grand, plus pour des raisons, je dirais, de pure fermiologie, le Seebeck est grand. Ça, c'est le premier point. Les coefficients E qui sont ici sont des purs nombres qui sont donnés par ces intégrales, qui viennent de l'intégration de la fonction d'échelle. Et la deuxième, le deuxième encadré ici, il est fait pour souligner le fait que, exactement sur le même pied que ce terme-là, les termes sous-dominants de la self-énergie, qui ne sont pas contenus dans la théorie de Landau, contribuent à l'ordre 1. Donc vous voyez que certes, il y a une contribution de la symétrie particule-trou dans la fermiologie du problème, mais il y a aussi une contribution de l'asymétrie particule-trou qui provient du temps de vie. Donc voilà le message essentiel, ou les messages essentiels. Alors, là, j'ai fait un zoom sur la toute petite région liquide de Fermi de la self-énergie pour vous montrer comment les choses se passent. Vous voyez que même à des températures qui sont très basses, ça c'est, c'est D sur KT, hein, comme on a vu la dernière fois, vous voyez qu'à ces températures, disons bleues et vertes ici, qui sont bien dans le liquide de Fermi, eh bien, on a plus ou moins une parabole, enfin même une bonne parabole. Ici, on a normalisé la fréquence par la température pour être dans les bonnes unités pour discuter le transport. Mais vous voyez que clairement, la déviation au liquide de Fermi du côté excitation de type particule intervient beaucoup plus tôt que la déviation du côté excitation de type trou. Donc, cette région ici, hein, qui sont les quasi-particules de type électron, vont contribuer de manière importante à ce terme, qui est ce terme d'asymétrie. Alors, pour illustrer ça, je réinsiste sur le fait que tous ces calculs sont l'œuvre de Xiaoyu Deng et de Yernei Moravlier, qui ont produit beaucoup de ces figures. Et ce que vous voyez ici, c'est le Seebeck en fonction de la température, toujours calculé dans ce modèle, c'est un zoom sur la région basse température. Ça, ce sont les résultats que je viens de vous montrer pour un dopage particulier qui est 20%. Donc c'est ce régime ici, linéaire. Et ici, on a mis trois courbes qui correspondent à différentes approximations. La courbe verte, c'est la courbe où vous négligez tous les facteurs de renormalisation dus aux interactions. Donc vous prenez juste Z égale 1, la fonction de transport telle qu'elle est donnée par la fermiologie du problème, et vous mettez tous les termes de scattering à 0, et vous trouvez cette courbe verte. Donc la première observation, c'est que même quand il n'y a pas de scattering du tout, le Seebeck est fini, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais vous voyez que la valeur est considérablement augmentée par les interactions. C'est la différence entre la courbe noire et la courbe verte. La deuxième remarque, c'est que si vous prenez cette courbe verte et que vous divisez simplement la valeur par Z, le poids des quasi-particules que vous avez calculé, vous obtenez cette courbe-là. Donc ce n'est pas non plus le résultat correct. D'accord ? Il y a en fait pas mal de gens qui font un calcul de structure de bande, obtiennent une valeur de la pente du Seebeck à basse température et renormalisent cette valeur par la masse effective mesurée expérimentalement, par exemple. Et il n'y a aucune raison que ça vous donne vraiment la bonne valeur. Ça ne marche pas trop mal, mais enfin. Et la troisième remarque, c'est que si vous négligez les termes en oméga cube et oméga T2, donc si vous négligez la symétrie au-delà de la théorie du liquide de Fermi, donc c'est ce qui s'appelle ici pure Fermi liquid, eh bien vous obtenez une pente qui est simplement, qui est fausse à peu près d'un facteur 2 par rapport à la vraie pente. Donc vous voyez que ce graphe, il illustre le fait que ces deux boîtes qui sont là donnent à peu près chacune une contribution du même ordre. Hein, il y a un facteur 2 dans la pente qui est dû à l'asymétrie intrinsèque du temps de vie de ces excitations. Donc, voilà ce qu'on a appris sur le Seebeck à basse température. Alors, vous voyez que ce facteur Z, qui dans cette théorie ne dépendant que de la fréquence, est aussi la masse effective du système, elle nous incite à regarder un rapport qui est le rapport du Seebeck au coefficient gamma de la chaleur spécifique, puisque le coefficient gamma de la chaleur spécifique fait intervenir M étoile sur M, donc, dans cette théorie simple, aussi 1 sur Z. Et quand on va diviser ça, ou plutôt la pente S sur T par gamma, on devrait obtenir un nombre. Ce nombre va dépendre du système, parce que toutes ces quantités dépendent du système, ils dépendent de la fermiologie du système, ils dépendent du temps de vie, mais quand même, le facteur essentiel, qui est Z, a été enlevé quand on fait ce rapport. Alors ça, c'est une remarque qui a été faite, il n'a pas attendu les théoriciens pour être faite, c'est ce que j'avais déjà présenté une fois dans un cours il y a 2 ans, c'est la loi de Benyajakar-Flouquet, je ne sais pas si Cameron est dans la salle, mais il était là la dernière fois. Donc, dans ce très bel article, récent, hein, ce n'est pas vieux, 2004, bon, ce n'est pas très vieux, ils ont regardé toute une série de systèmes, des fermions lourds, des oxydes, etc., etc. Et ils ont remarqué que la pente du Seebeck, en fonction du coefficient de la chaleur spécifique, pour beaucoup de matériaux, se plaçait sur une espèce de droite. Donc il y avait une loi effectivement empirique, que S sur T sur gamma était quelque chose qui dépendait du système, mais que tous les systèmes se plaçaient sur une même droite, autrement dit, plus S sur T est grand, plus gamma est grand. Hein, donc c'est une sorte de loi de Kadowaki-Woods, mais qui est peut-être mieux, une sorte de loi de Kadowaki-Woods pour le pouvoir thermoélectrique, mais qui est peut-être plus robuste, parce que finalement, là, on regarde quelque chose dans lequel, qui n'est pas vraiment une propriété de transport, hein, à la différence de la loi de Kadowaki-Woods, qui fait le rapport du coefficient A de la résistivité au qui est une propriété de transport vraiment, à la chaleur spécifique, qui est une propriété de thermodynamique. Là, on fait presque le rapport, je dirais, de deux quantités thermodynamiques, d'une certaine manière. Bon, alors, je vous ai parlé du régime liquide de Fermi, maintenant je vais vous parler des autres régimes. Alors, vous voyez, maintenant je zoome sur une plus grande échelle, la température de cohérence du liquide de Fermi, elle est ici, c'est là où il y a la loi linéaire. Et vous voyez que le coefficient Seebeck, il continue gentiment à augmenter, toujours avec le signe de porteur de charge de type électron. Hein. Alors, pourquoi j'appelle ça porteur de charge de type électron? Ben, vous voyez bien sur cette formule, vous voyez que si on est dans une région de la densité d'état qui est telle que la dérivée de la densité d'état est positive, hein, ce qui est associé en général à une surface de Fermi de type électron, cette quantité est positive, et comme il y a un signe moins ici, ça veut dire que la pente du Seebeck est négative. Hein, donc, une pente du Seebeck négative, c'est bien des porteurs de charge de type électron. Et vous voyez que, alors c'est pas là, vous voyez qu'on continue gentiment à augmenter jusqu'à des valeurs de la température qui sont bien plus grandes que la température où le liquide de Fermi cessait d'être valable. Alors ça, clairement, c'est quelque chose qui est dû aux quasi-particules de type électron qui se manifeste dans ce régime et qu'on avait vu dans l'analyse du transport en grand détail la dernière fois. Et ça vient de cette asymétrie qui est là. Hein, vous voyez que ce qui contribue, c'est ce qui se passe ici. Hein. C'est-à-dire ce sont les excitations qui correspondent à un bon pic dans la fonction spectrale pour des énergies positives au-dessus du niveau de Fermi, qui, dans ce régime, contribue à faire augmenter le Seebeck, toujours du côté électron. Et puis, quand on commence à arriver à des températures où ces quasi-particules, que j'avais appelées quasi-particules de Drude, pour dire qu'elles n'obéissaient plus vraiment à une loi de Landau, c'est pas que c'est des entités différentes, c'est juste que leur temps de vie est devenu plus court que ceux de la loi de Landau et qu'elles contribuent au transport tout en étant un peu loin de la surface de Fermi. Quand ces quasi-particules commencent à faiblir, commencent à s'élargir et à être détruites, eh bien, le Seebeck change d'opinion. Il y a une sorte de restauration de la symétrie particule-trou, ici, où le Seebeck croise zéro, et ça, on le voit très bien dans le temps de vie. Vous voyez que quand on commence à aller à des températures élevées, ici, le temps de vie est plat autour du niveau de Fermi, ce qui est un signe de la restauration approximative d'une symétrie particule-trou. Et le Seebeck, corrélativement, croise zéro. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le régime intermédiaire. Le régime intermédiaire, il est dominé par ces quasi-particules de Drude dans ce régime. Et puis, ensuite, il y a un raccordement entre ce régime-là et le régime de haute température, où on commence à atteindre la limite de Motioff-Regel. On perd les quasi-particules. Et dans ce régime-là, on peut comprendre tout analytiquement, et c'est là-dessus que je vais finir le cours. Donc maintenant, je vais dans le régime haute température, où on avait ce maximum et puis de nouveau un changement de signe à très haute température. Et ça va me permettre d'introduire ce qu'on appelle la limite de Heike. Et puis Sriram nous parlera de la formule de Kelvin, qui en fait se trouve marcher beaucoup mieux que la formule de Heike dans ce régime, comme vous allez le voir. Bien, alors, dans ce régime basse température, j'avais tout juste commencé à en parler. Ce régime très haute température, j'avais tout juste commencé à en parler à la fin du cours précédent pour analyser la résistivité dans ce régime. Je n'avais pas eu le temps de faire le calcul, donc je vais vous en parler un petit peu maintenant. Ce sur quoi j'avais insisté, c'est que dans ce régime très haute température, le potentiel chimique est linéaire en T. Alors pourquoi je parle du potentiel chimique tout à coup? Parce qu'en fait, dans ce régime, toutes les quasi-particules ont disparu. La fonction spectrale est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a juste une bande de Hubbard inférieure. Il y a évidemment aussi, loin, une bande de Hubbard supérieure, séparée par U. Et on est en train, en fait, de doper un semi-conducteur. Et il faut juste savoir où est l'énergie de Fermi dans cette bande de Hubbard inférieure. Donc c'est pour ça que la dépendance en température du potentiel chimique est très importante. Et effectivement, ici, c'est un calcul du potentiel chimique en fonction de T. Alors, vous voyez, c'est des températures colossales. Et vous voyez qu'ici, on a un bon régime linéaire. Alors, on peut comprendre, vous allez voir dans un instant, pourquoi le potentiel chimique est linéaire en T dans ce régime. Donc, encore une fois, on est juste en train de décrire le système par une sorte de semi-conducteur dopé qui a des trous dans la bande de Hubbard inférieure. C'est ça la description d'un régime de haute température. Alors, on peut formaliser un peu tout ça. Donc, maintenant qu'on sait que le potentiel chimique est linéaire en T, ça veut dire que ce alpha qui est bêta mu est une constante. D'accord ? On a une sorte de description de bande rigide où la fonction spectrale, alors dans ce truc, la fonction spectrale A, elle s'appelle tout à coup ρ, parce que j'ai eu la flemme de recopier toutes ces équations et je les ai piquées d'une thèse qui est la thèse de Gunnar Paulsson à Rutgers, où tous ces calculs ont été faits. Donc ça, c'est bien A, d'accord ? Et donc dans ce régime, on a une fonction d'enveloppe et la fonction spectrale est juste donnée par changement de l'origine des énergies. Cette fonction ρ tilde est essentiellement fixe, elle dépend plus de la température. Donc ce qu'il faut faire, c'est décaler l'origine des énergies et développer cette expression pour bêta petit, puisqu'on est à haute température. Donc on développe cette expression, bon, je vous passe le détail de l'algèbre, et ce qu'on trouve, c'est que d'une part, dans ce régime, la résistivité est linéaire en T, mais évidemment, là, on est en train de parler d'un régime où la résistivité est peut-être linéaire en T, mais elle est plus grande que la limite de Motioff-Regel. D'un autre côté, on a aussi vu, donc je vous remonte ces courbes, qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans la résistivité quand on traverse la limite de Motioff-Regel. Donc de manière assez surprenante et pas complètement comprise, ce développement haute température de la résistivité, en fait, reste valable jusqu'à des températures relativement basses. Vous voyez par exemple ici, si vous regardez la courbe à 20%, qui est cette courbe-là, Ben, on est encore très loin de ρ mod Ioffe-Regel, ça c'est en unité de ρ mod. On croiserait ρ mod ici quelque part à des températures d'ordre 0,5 ou 0,6 et rien ne se passe. La résistivité croît linéairement jusque là-haut. D'accord ? Donc en fait, ce régime de résistivité linéaire qui est obtenu par développement haute température au-dessus de la résistivité de mod Ioffe-Regel, elle continue à travers cette température caractéristique jusqu'à des températures par ici qui sont beaucoup plus faibles. Alors je dis ça parce que il est bien possible que ceci est partie liée avec l'observation de résistivité linéaire dans pas mal de systèmes où les gens l'attribuent à la recherche d'un point fixe infrarouge stable à basse température qui soit non liquide de Fermi, mais peut-être que dans pas mal de systèmes, c'est ça qu'on voit. Vous voyez qu'on peut en rendre compte même avec des valeurs de la résistivité plus petites que la limite de mod Ioffe-Regel, simplement à cause de ce crossover entre ce régime de Drude et ce régime haute température. Bon, donc, ce développement haute température, on peut le faire pour le Seebeck, comme on l'a fait pour la résistivité, en développant ces différents coefficients de transport. Et vous voyez que la beauté de la chose, c'est que si je regarde le rapport A1 sur A0, eh bien, tous les détails de la fermiologie du système qui sont dans ce gamma 0, qui était juste un moment de la fonction spectrale, disparaissent. Et il me reste une formule extrêmement simple, magnifique, qui est que le Seebeck, c'est KB sur E fois la pente du potentiel chimique. Alors ça, c'est quelque chose qui a été établi, pas tout à fait comme ça, mais disons avec le même type d'argument, dans un très bel article de Chaikin et Benny, assez ancien, de 1976, qui est vraiment un très bel article, qui établit tout simplement cette formule et qui remarque également que, à cause d'identités thermodynamiques très simples, on a vu tout à l'heure que TdS, c'est dE moins mu dN. Donc vous voyez que mu sur T, c'est la dérivée moins la dérivée de l'entropie par rapport au nombre de particules à énergie constante, j'insiste sur ce point, à énergie constante. Et donc vous pouvez convertir cette formule en celle-ci. Le Seebeck à température, disons, nominalement infinie, hein, c'est donné par cette formule-là. Et vous voyez comment. Alors, cette formule est très belle. Je ne sais pas très bien comment elle s'appelle. Pour moi, c'est la formule de Chaikin et Benny. Et puis, ses applications particulières, c'est la formule de Heike. Mais elle souligne plusieurs choses. Elle souligne vraiment d'abord le fait que le Seebeck est une notion thermodynamique dans ce régime-là. Clairement, parce qu'elle est juste liée à l'entropie. Et d'autre part, elle nous donne aussi un moyen, probablement, de faire des calculs de Seebeck dans le régime haute température, sans avoir à faire des calculs complexes de transport. Hein, puisqu'il suffit de. Si cette formule marche, il suffit de calculer l'entropie du système. Tout le problème est de savoir quels sont les degrés de liberté actifs du système, et ça, on en parlera dans le cours de l'année prochaine. Ce genre de jeu a été beaucoup pratiqué dans les cobaltates, par exemple. Alors, on va appliquer maintenant cette formule à notre problème. Alors, dans notre problème, c'est très simple. En fait, on peut l'appliquer dans deux régimes de température, parce que clairement, il y a la largeur de bande, mais il y a une autre échelle d'énergie qui est U, qui sont bien séparées. D'accord ? Donc, il y a deux régimes de température. Il y a un régime où la température est comprise entre D et U. Bon, il va sans dire que pour ce problème à une bande, tout ça est assez académique, hein, puisque D, c'est 12 000 Kelvin, mais on peut discuter ça comme théoricien, disons. Et dans les systèmes multi-orbitaux, toutes ces échelles sont poussées à beaucoup plus basse température, donc ça devient pertinent. Donc dans ce régime-là, vous voyez que quels sont les états accessibles au système ? Ben, il y a juste les trous et les simples occupations. Les doubles occupations sont complètement interdites. Donc un petit peu d'algèbre très simple permet de trouver la probabilité de ces états. La probabilité d'un trou, c'est 1 moins n. La probabilité d'une simple occupation, c'est n sur 2. La probabilité d'une double occupation, c'est 0. Donc j'en déduis l'entropie en unité de KB. C'est moins 1 moins n log d'1 moins n moins 2 fois n sur 2 log de n sur 2. Et je prends la dérivée et j'obtiens cette formule. Donc ça, c'est le Seebeck dans le régime de température où la température est plus grande que la largeur de bande et plus petite que U. Puis vous pouvez recommencer le même jeu quand maintenant les doubles occupations sont permises. Vous avez maintenant un état de plus, donc vous avez une autre formule pour l'entropie. Vous prenez la dérivée, vous obtenez ça. Il y a maintenant un plus. Et ceci a comme implication que, effectivement, si vous regardez dans le régime de dopage dont je parlais, disons 10 ou 20%, 20% par exemple, eh bien, si vous mettez 0,8 dans ces formules, vous trouverez que ce nombre est négatif et ce nombre est positif. Donc, ceci explique le fait qu'il y avait un maximum dans un régime de température intermédiaire à un Seebeck positif et puis un minimum, finalement, à très haute température à un Seebeck négatif. Alors, voilà ce qui est montré ici. Donc, maintenant, je vous montre en grand la courbe de tout à l'heure sur une très grande gamme de température, jusqu'à la largeur de bande, en gros. Il y a beaucoup de courbes sur ce graphe, donc je vais essayer de vous les commenter. Alors, ce que vous avez ici en noir, c'est le calcul complet en résolvant les équations des MFT par des méthodes de groupe de normalisation numérique. C'est ces résultats-là, donc c'est pour 20% de dopage, c'est ces résultats-là qu'on a analysés tout à l'heure en détail. Régime de liquide de Fermi, etc. Donc, ici, on obtient un maximum, et vous voyez que ce maximum est assez près de la valeur de Heike numéro 1. On ne l'atteint pas complètement, parce que ce calcul est fait pour U sur D égale 4, c'est-à-dire U deux fois la largeur de bande, et donc les échelles U et les échelles D ne sont pas complètement séparées. Pour vraiment atteindre cette valeur, il faudrait repousser l'échelle U à beaucoup plus grande, mais enfin, on l'atteint quasiment. Et puis ici, on continue à chauffer le système et vous voyez qu'on devient négatif de nouveau et on atteint un régime qui est près de Heike numéro 2. Alors ça, c'est la première chose que vous voyez sur ces courbes. Hein, les lignes pointillées ici et là, c'est juste mettre n égale 0,8 dans les deux formules de tout à l'heure. Une autre chose que vous voyez sur ces courbes, c'est que si maintenant je compare le vrai calcul du Seebeck à mu divisé par T, qui est la formule que j'ai établie tout à l'heure, la formule de Benny, Shaikin, Heike, disons. Alors, on a soustrait mu de T égale 0 pour que les choses se comportent bien aussi à basse température, ce n'est pas très important. Eh bien, vous obtenez les courbes qui sont bleues et vertes. Donc, enfin, bon, la courbe bleue, disons. Et vous voyez que c'est une courbe qui est en mauvais accord avec les vrais calculs, le calcul du Seebeck pour ce modèle. Donc, en fait, cette formule mu sur t, elle vous donne bien les bonnes limites asymptotiques, mais elle n'est pas en bon accord avec les résultats calculés par la formule de Kubo. Et finalement, ce qui est également porté sur ce graphe, c'est la dérivée du potentiel chimique par rapport à la température, dont Sriram va vous parler tout à l'heure. C'est ce qu'il a appelé la formule de Kelvin. C'est une autre formule de Kelvin, hein, c'est pas pi égale st, c'est une autre formule de Kelvin. Et vous voyez que cette quantité-là, elle fait vraiment un bon travail dans le régime haute température. Évidemment, dans ce régime-là, elle ne marche pas, mais dans le régime haute température ici, vous voyez qu'elle fait un très bon travail par rapport au calcul du Seebeck. Donc, la morale de ce... Il y a pas mal de conclusions dans ce graphe, mais une des conclusions, c'est que si vous voulez avoir un moyen économique d'estimer le Seebeck dans les régimes haute température, effectivement, cette formule de Kelvin est mieux que la formule de mu sur t. Voilà. Alors, à quoi correspond cette estimation des mu dt? Ça, je laisse Sriram en parler dans son séminaire. C'est lui qui a fait cette observation. Alors, maintenant, ce que je vous montre ici pour conclure le cours, c'est une comparaison directe du comportement du Seebeck. Alors, c'est sur une échelle log, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point là, ni là. Sur une échelle log, maintenant, je vous montre une comparaison directe des régimes, différents régimes qu'on a discutés pour le Seebeck en fonction de l'entropie, en fonction de T. Donc, l'axe de droite, c'est le Seebeck, vous voyez, qui devient négatif ici, qui redeviendra négatif là. Et puis, l'axe de gauche, c'est l'entropie. Alors, ce que j'ai indiqué par les deux lignes rouges, c'est les deux valeurs de l'entropie correspondant aux deux limites de Heike que j'ai calculées tout à l'heure. Et vous voyez, c'est très beau. Et puis ce qui est ici, c'est le calcul complet de l'entropie du système calculé en DMFT. Alors on part d'un comportement en T2 à très basse température dans le régime de Fermi, on augmente, on passe par une espèce d'épaulement ici, et vous voyez que cet épaulement, il est exactement à la valeur que vous attendez, quand vous dites que les doubles occupations sont interdites. C'est normal, puisque si on allait à des régimes de couplage plus grands, cet épaulement deviendrait un plateau. Donc c'est pour ça qu'il y a un épaulement. Et c'est exactement l'endroit où le Seebeck est maximum. Et ensuite, on atteint la deuxième valeur de Heike, et évidemment, du coup, le Seebeck va tendre vers sa valeur asymptotique qui est là. On aurait dû prolonger cette courbe avec la courbe rouge de tout à l'heure. Voilà. Bon, donc, je pense que ceci conclut essentiellement le cours. Donc, je répète un peu les messages principaux. Donc, ce coefficient Seebeck est une quantité très sensible. Fondamentalement, ce n'est pas, en tout cas, exclusivement une quantité de transport. C'est fortement une quantité thermodynamique. Mais enfin, j'ai aussi insisté sur le fait que ce n'était pas non plus tout à fait vrai, parce qu'il était très sensible, par exemple, à l'asymétrie particule-trou du taux de diffusion. Hein. Donc, ce n'est quand même pas une chaleur spécifique non plus. Donc, c'est une quantité qui est extrêmement sensible aux différents régimes. On a vu que le comportement dans le régime liquide de Fermi, dans le régime que j'ai appelé Drude, dans le régime haute température, et même les deux régimes haute température, nous donnait des indications. Comme il a toutes ces variations, et qu'il dépend aussi fortement de la fermiologie du problème, ce n'est pas une quantité qui est toujours facile à interpréter, d'autant plus que je n'ai pas du tout parlé de phonons dans ce problème. Je vois les expérimentateurs qui hochent la tête, mais le fameux problème du phonon de Drag est évidemment un grand problème. J'essaierai d'en parler dans le cours de l'an prochain. J'ai insisté sur le fait que le liquide de Fermi était carrément insuffisant, même pour le coefficient dominant en température, à basse température, et puis que finalement, le fait de disposer de formules qui soient des formules simples, qui n'impliquent seulement des calculs d'entropie dans le régime haute température, pourrait être utile, même d'un point de vue pratique, dans des applications qui combinent structure électronique et corrélation, dans la recherche de meilleurs matériaux thermoélectriques, mais ça, c'est plutôt pour le cours de l'an prochain. Voilà, alors, j'ai pas du tout parlé d'expérience dans ce cours. Il y a très peu de résultats expérimentaux sur les isolants de mode dopé, sur le Seebeck des isolants de mode dopé. Il y en a en fait deux. Il y en a peut-être quelques autres, mais il y en a vraiment peu. Il y en a évidemment sur les cuprates, mais les cuprates forment un monde à part où certaines de ces lois ne sont pas satisfaites, donc j'en ai volontairement pas parlé là. Il y a ces résultats dans un régime limité de T, et bon, voilà, c'est ça les courbes. Sur les titanates dopés au strontium. Ça, c'est une comparaison avec des calculs théoriques un peu simplifiés dans le contexte de DMFT, donc ça ne marche pas trop mal, on voit ces différents changements de signes, etc. Il y a un très joli article, j'en parlerai l'année prochaine, je pense, sur l'antenne VO3 dopée au strontium, où on voit les deux régimes de Heike par le groupe japonais de Tokura et collaborateurs. Mais enfin, je veux me garder de la matière pour l'an prochain, donc je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Et puis, je vous remontre les questions que j'avais posées lors du cours numéro, je ne sais plus combien, enfin, du premier cours sur le transport, et j'espère qu'on a quasiment répondu à toutes ces questions, au moins partiellement, au moins dans un cadre particulier. Et je vous remontre aussi les motivations qui m'ont fait penser que ce n'était pas des questions trop démodées, mais qu'elles étaient relativement importantes. Il était assez important de les discuter maintenant. Voilà, bon, moi, je vous remercie pour avoir participé à ce cours. Et donc, si tout se passe bien et si je ne change pas d'avis, l'année prochaine, ce sera de la thermoélectricité. Et bien sûr, si vous avez des questions, c'est maintenant.